Bonjour, Marco, compte à rebours. Vous ne connaissez pas cette fabuleuse émission Compte à rebours, ce sont des histoires et c'est la 180e édition. Je dis ça parce qu'on a compté l'autre jour et ça fait beaucoup. Et bien, ce sont des contes, ce sont des histoires, ce sont des blagues, ce sont des légendes. Et aujourd'hui, ça va être une notice d'utilisation, ma foi. On peut lire de tout, hein. Puisque nous allons faire la deuxième partie de notre série sur les moulins. On a commencé la semaine dernière, on a vu l'eau, on a vu les débuts du moulin, on a vu aussi bien sûr les ânes qui portent le grain et la farine, on a vu des histoires d'Azenaire, de meneur d'ânes. Et aujourd'hui, il y en aura encore aussi. Mais par contre, aujourd'hui, on va parler du moulin. Et la prochaine fois, on parlera sans doute des meuniers. Donc, vous voyez, c'est toute une série éducative. Et on s'inspire, une fois de plus, d'un livre de Régis Granier aux éditions Loubatière. Moi, Gilbert Gavens, meunier depuis 400 ans. Et oui, il avait son grand-père qui était meunier, le père de son grand-père, et ainsi de suite. Et il raconte bien sa vie de meunier. Et voilà. Mais pour l'instant, parlons du moulin, parce que on ne sait pas trop comment ça tourne exactement. Donc, explication sur les moulins. Tiens, on va commencer par une devinette. Plus je bois, plus je mange de grains. Qui suis-je? Loumouli, bien sûr. Mais Loumouli d'ail, à ne pas confondre avec Loumouli des bains. Plus le vent souffle, plus j'ai faim. À ne pas confondre non plus avec le moulin à sang. Autrefois, il y avait le moulin à sang, Kézakosa. Eh bien, c'était l'énergie humaine ou animale. Des esclaves ou des ânes, qui tournaient en rond pour écraser des olives, pour faire de l'huile de noix, pour faire de la farine. Le moulin, vous l'avez compris, a besoin d'une énergie rotative. Bon, c'est vrai qu'on peut taper sur les grains avec un marteau ou avec un pilon, mais c'est un peu plus long. Quelque chose qui tourne écrase de pierre, eh oui. Et le moulin d'ail, le moulin à eau, bon, on ne peut pas le mettre directement dans le ruisseau, vous comprenez bien. Si vous mettez des pales dans un ruisseau, tout est bien installé, le moulin tourne impeccable. Mais l'eau monte et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout est inondé. L'eau baisse et il n'y en a pas assez. Bref, solution, il faut un bief, ce qu'on appelle un bief, c'est-à-dire on dérive l'eau du petit ruisseau. Après, idéalement, on fait même une petite réserve, une petite mare, c'est joli en plus. Et de cette eau-là, on va faire descendre l'eau en jet avec quelque chose qui va concentrer la pression sur des pales aussi, une sorte de turbine. Et là, on a ce qu'il faut, c'est-à-dire une rotation régulière. Si l'eau baisse, il y a la réserve et ça continue à couler. Si l'eau monte, c'est pas grave, la réserve se remplit, mais le débit reste le même et on a ce que l'on espérait, cette rotation régulière. Le moulin tourne donc, mais grâce à l'eau qui coule. Mais dans un moulin, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'eau qui coule. Le grain aussi. Il coule en quelque sorte. Si on s'y prend bien, on peut le faire couler et on n'a presque rien à faire. Il faut des choses comme des vis sans fin, vous voyez. Ça aussi, ça tourne avec la force de l'eau. Hein. Et la vis sans fin tourne peut faire monter le grain très haut et puis après il descend. Il peut descendre dans un ventilateur, un tarare, puis après un trieur. Et il finit quand même par arriver au moulin. On peut aussi tout simplement prendre un sac sur le dos une fois qu'il a été trié et le verser dans la trémie, ce grand entonnoir au-dessus du moulin. Et là, plouf, il tombe dans l'ogette, l'esclope, une espèce de petit truc qui vibre, clac, 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 qui se règle en hauteur et qui va donner le débit de grain dans le moulin. Tout ça coulant au centre de la meule qui est posée sur un axe tournant et ça tourne dans l'œillard au centre de la meule. On a le grain qui arrive. Les meules, vous savez sans doute, mais je vous l'explique. Il y en a une qui est dormante et une autre qui est tournante. On peut pas quand même faire tourner les deux meules en sens opposé. Il y en a une qui gît au fond, c'est la meule gisante. Et celle qui est dessus, elle est prise par en dessous, légèrement soulevée, et elle tourne. Et elle tourne, elle est dressée, la face de la meule, dressée, c'est-à-dire habillée, c'est-à-dire taillée de telle sorte qu'elle soit légèrement concave. Et aussi, il y a un rayonnage très précis qui est fait. Bon, la matière aussi de la pierre est importante. Si vous prenez une pierre ponce, une pierre molle, ça va pas durer longtemps. Il faut une pierre calcaire ou gréseuse, riche en silice. Il faut qu'il y ait des petits grains dedans, qu'elles soient pas tout à fait égales. Et là, elle va t'écraser le grain en tournant, dans le bon sens, bien sûr. Et oui, normalement, une meule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais des fois, pour des questions de commodité ou pour des questions d'engrenage, mais ça peut tourner dans l'autre sens. Mais à ce moment-là, il faut le dire à celui qui va vous fabriquer la meule. J'ai retrouvé une lettre, entre une correspondance entre un meunier, un moulinier, donc comme on dit par ici, et un tailleur de meule. Pour la fabrication de la meule, le client devait préciser le diamètre, bien sûr, la dimension de l'œillard et le sens du rayonnage. Mais il arrivait que Meunier se trompe sur le sens du rayonnage, comme en témoignent ses extraits. « Monsieur, vous nous dites que vos meules de dessus doivent être rayonnées pour tourner à contresens. Nous comprenons donc que ces meules doivent être rayonnées pour tourner à contresens des aiguilles d'une montre. » C'est-à-dire dans le sens opposé à celui auquel le soleil semble tourner autour de la Terre. Vous suivez ? Malgré toutes ces précautions prises à la commande pour savoir dans quel sens on tourne, il arrivait parfois qu'on soit obligé de se déplacer pour modifier le sens. Ainsi, cette lettre précise que le fabricant de meules a envoyé un ouvrier à 100 lieues d'ici pour dérayonner, redresser et rayonner à nouveau deux paires de meules. Le bénéfice est mangé deux fois. Donc, vous l'aurez compris, ces meules-là, elles doivent être bien taillées. Et ce qu'on appelle le repiquage est essentiel. C'est-à-dire que, à force de tourner, les meules, elles ont beau être très dures, et le grain mou, et quand même, il y a un peu de pierre qui part. Et puis, petit à petit, toutes les tracés qu'on a fait, les rayonnages, ben, disparaissent et la pierre devient toute lisse. Et là, paradis, la baisse de rendement commence, ça brunit la farine parce qu'il y a un échauffement. On peut même avoir des explosions. La farine peut exploser, la poussière de farine et de la chaleur peut créer une explosion. Bon, c'est quand même plus rare que dans les raffineries de pétrole, mais quand même, ça peut arriver. Donc, un travail régulier et assez lourd, c'est retourner les meules, enfin la meule tournante, on la retourne, et puis là, on la passe au noir de fumée avec de l'eau pour voir les endroits qui... Après, on place une règle dessus et on voit les endroits où il y a des pointes et on va retailler et on va refaire les rayonnages s'il y a besoin. Tout ça avec le picousse, c'est-à-dire un marteau sur lequel on visse une pointe en acier spécial. C'est un trempage spécial. Tous les forgerons ne savaient pas faire ça. Il fallait avoir le bon forgeron. À ce moment-là, on repique et ça prend du temps. Chaque fois qu'on donne un petit coup avec ce picousse, bien sûr, ça fait une étincelle. Et parfois, ces étincelles, elles envoient un petit bout de pierre et qui vient se mettre dans la peau. C'est pour ça que tous les meuniers avaient ce qu'on appelait le tatouage professionnel. Sur les mains et aussi sur le visage, ils avaient des petites taches noires, brunes, mais qui étaient sous la peau, parce que c'est des petites particules qui se sont incrustées. Voilà, en tout cas, une fois que ça s'est fait, eh bien, les meules peuvent faire leur boulot. C'est-à-dire que, surtout pour le blé, parce que il y a des meules selon chaque type de graines, chaque type de mouture, mais le blé, qui est quand même le plus moulu, eh bien, il faut que le sol soit bien gratté, parce que la farine a tendance à attacher au sol, et si c'est pas bien gratté comme ça, eh bien, on perd une partie de la farine, le rendement devient mauvais. La farine coule aussi, hein. J'ai dit que le grain coulait, mais la farine, une fois qu'elle sort du moulin, eh bien, elle va dans une bouteille, elle y descend par gravité, tout simplement, dans une espèce de grand tube. En fait, elle rentre dedans, mais ce tube-là, la surface, c'est de la soie, un tamis de maillage de soie. Et il y a plusieurs différents maillages le long du cylindre qui est incliné, et la farine descend, et la farine fine tombe tout de suite, et puis plus grosse plus loin, et au bout, le son. Et voilà comment on arrive à avoir de la farine blanche ou grise ou complète, selon l'endroit où on va la chercher. Donc, c'est un peu une petite usine, tout ça. Ça tourne avec des axes, des courroies, ça travaille. 100 tours minutes, on dit, pour un moulin. Enfin, ça dépend des diamètres, ça peut être 50 s'il est plus large, 25. Et 100 kilos à l'heure, plus ou moins. Hein. Vous voyez le rendement, donc... C'est pas mal quand même, mais c'est beaucoup plus lent que les moulins à cylindre moderne des minoteries qui font une farine différente puisqu'elle est quand même beaucoup plus échauffée et sans doute beaucoup plus oxydée. Mais enfin bref, vous connaissez maintenant le matériel et il vous suffit de quelques conseils du moulinier Gilbert Gavens et vous aurez acquis grâce à cette émission une nouvelle compétence professionnelle. Alors, écoutons les conseils maintenant du meunier. Il dit, Gilbert Gavès, meunier, c'est un métier où il faut savoir tout faire. Connaître le métier de paysan, bien sûr, sinon on ne peut pas respecter le grain comme il le mérite. Il faut savoir s'occuper des chevaux, des ânes, des mulets, puisque sans eux, pas de tournée. Il faut connaître la menuiserie, la maçonnerie, la mécanique, et aussi le calcul des débits d'eau. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que je suppose que vous êtes comme moi et comme tous les écoliers de France qui, depuis l'enfance, se demandent pourquoi on nous pose ces questions de baignoires qui fuient mais qui se remplissent aussi, à quel moment elle sera en train de déborder. On se demandait à quoi ça servait et en fait, c'est utile au meunier à eau, parce que c'est très important de savoir selon le débit de la rivière et selon l'eau qui est utilisée, eh bien, est-ce que la réserve va se remplir ou est-ce qu'elle va se vider lorsque l'eau commence à baisser en été, jusqu'à quand on va pouvoir continuer à moudre. Tout ça, ça se calcule grâce à ces histoires de débit d'eau, oui. Donc, Gilbert Gavens dit aussi, en plus de l'eau, il faut connaître la taille de la pierre, le repiquage de la meule, le picousse, dit-il, je vous en ai parlé, c'est ce marteau spécial, il dit, c'est le secret du métier. Si on a un bon forgeron qui nous fait un bon picousse, on fera une bonne farine. Il rajoute que l'eau fait tout tourner, c'est vrai, mais c'est quand même pas tout cuit, il y a beaucoup de manutention. Faut être en bonne santé. Il dit que au conseil de révision, il pesait 80 kilos. Il devait avoir 20 ans. Donc, il semble bien que il faut être en bonne santé, à moins que ce soit le moulin qui vous tienne en bonne santé. Est Il était installé, son moulin était en dessous de l'Ose, sur la Bonnette. Et la Bonnette, vous la connaissez, en été. Il n'y a pas beaucoup d'eau, des fois même. Hein. Et qu'est-ce qui se passait pour ces moulins? Bon, ils avaient leur réserve, mais une fois que leur réserve était vidée, et s'il n'y a pas assez d'eau, si le débit de la rivière, justement, n'est pas assez important, qu'on a calculé, on ne peut pas y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend la charrette, on charge les sacs, on va moudre ailleurs. Il se rappelle son grand-père qui est allé moudre jusqu'à Varennes. Hein, rendez-vous compte du chemin. Pour peu de choses, bien sûr, parce qu'il fallait laisser la moitié du bénéfice au moulinier. Mais c'était pour contenter le client. Gilbert dit qu'ils avaient des clients qui étaient clients du moulin depuis 100 ans. Ils les connaissaient bien. Et là, on ne peut pas ne pas les satisfaire. On se débrouille pour leur rendre service. Ils avaient une relation avec les agriculteurs, avec les paysans du coin, très très proches. Souvent, ils allaient dans la ferme, il n'y avait personne. Eh ben, on prend le sac et on le ramène au moulin pour le moudre. Une fois, justement, son frère était allé récupérer un sac chez quelqu'un. Il n'était pas là, il avait pris le sac. Et puis, en arrivant, hop, il prend ce frère était costaud, il prend le sac et hop, attendez, 80 kilos à l'époque, hein, aussi. Fouf, il vide le sac dans la trémie et puis il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Le client déboule, dit, malheureux, dans mon sac, j'avais de mon porte-monnaie que j'avais mis pour le marché. Ils sont vite allés au moulin. Il y avait 800 francs en louis d'or, paraît-il, dans ce porte-monnaie. C'est énorme. Et ils sont allés le voir. Où est-ce qu'il était passé? Et puis, en fait, il était tombé dans le hier. Vous avez compris tout à l'heure. La meule tourne, hein, met au centre le grain tombe. Tout de suite, hop, 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 il part sur les côtés. Mais là, plouc, il était plus lourd, le porte-monnaie, plouf, il était tombé au centre, il tournait. Mais il n'était pas passé sous les meules. Ça aurait fait un boucan terrible. Non, ils l'ont retrouvé. Oui, les clients étaient comme ça, chacun avait ses idées. Une cliente, par exemple, dit Gilbert Gavens, ne voulait surtout pas qu'on fasse la farine à nos troubles. L'eau trouble fait la farine moins blanche, disait-elle. Lui, il souriait parce qu'il sait bien que la farine ne voit jamais l'eau dans un moulin. Heureusement, mais bon, le meunier doit satisfaire son client. Et contrairement à ce qu'on croit, il ne fait pas que dormir tandis que le travail se fait. Le premier outil de travail du meunier, c'est l'oreille. Ouais. Si le volume change, si le tic-tic-tac-tic-tac bouge, ah, l'auge se vide, il va manquer du grain, il faut vite y aller, il faut peut-être arrêter le moulin, parce que sinon, si on fait la sieste prolongée, et qu'on se réveille, et que ça sent le silex, la pierre contre la pierre, là, on peut se dire qu'on aura une meule à repiquer. Le meunier, il est donc occupé au moulin, mais il n'est pas qu'au moulin, puisque si l'eau y arrive toute seule, a priori on s'est mis près d'une rivière, le grain, lui, il faut aller le chercher. Et c'est là qu'on voit que les tournées sont une part essentielle du travail. Et c'est là qu'on retrouve les mules et les ânes. Vous aurez reconnu la polka de Preissac, célèbre, jouée là par Elke à l'accordéon, une célèbre accordéoniste du coin. Et pourquoi raconter? Eh bien, pour raconter une histoire d'âne. Une histoire que l'on raconte depuis l'époque romaine, je crois. Hein. On en trouve des traces dans toutes les civilisations. Mais on l'aime bien. Et elle parle d'un de nos amis qui s'appelle Bentrelun. Bentrelun. Ventre long. Oui. Il en avait un beau ventre, ce gars-là. Il habitait au-dessus de Saint-Antonin. Et ma foi, il était à Zénaïre. Je vous en ai parlé la semaine dernière, Nazenair mène un âne. Il le mène pas tout seul, il le mène souvent avec un chargement. Un sac de farine, un sac de grains, il travaille pour un moulinier en l'occurrence. Lui, il était là avec son âne, est-ce qu'il faut savoir hein, quand même mener un âne. Avance, parce que vous mettez quelqu'un qui a aucune expérience, bah, il courra après son âne toute la journée, lui il savait le mener. Il le menait tranquille et il arrive avec son sac de farine au village où il devait livrer un boulanger. Il arrive, il y avait là un monde de fous et c'était un jour de foire. Il n'y avait pas moyen d'avancer, pas moyen de se faufiler, il savait même pas où était ce boulanger. Il a attaché son âne à un arbre sur la place et il est parti à la recherche de son boulanger. Et tourne ici et tourne là, il finit par le trouver et il revient chercher son âne, mais arrivé sur la place, là où il l'avait attaché, plus rien. Ni âne, ni bât, ni croupière. Il est effondré, le ventre-loun. C'est même pas son âne, c'est pas sa farine, il travaille pour quelqu'un, Mundi, où est-ce que c'est passé? Le voilà qui tombe à genoux, qui se met à pleurer. Et il serait resté là jusqu'à la fin de l'après-midi si un de ses cousins n'était pas venu à passer. Il le reconnaît. Il lui dit « Mais c'est Bentreloun, qu'est-ce que tu fais là ?» Bentreloun, il lui explique « Mon âne, perdu, la farine, perdu, le moulinier va me tuer !»« T'inquiète pas, il n'y a pas de voleur ici, on va le retrouver, il a dû se détacher. Mais ce soir, je vais te dire une chose, tu vas pas rester sans manger et tu vas pas non plus rester sans dormir. Je t'offre une chambre à l'auberge et le repas. » Il l'amène à l'auberge, il lui offre le repas, et au moment d'aller se coucher, l'aubergiste dit à Bentreloun, là-haut, il y a des chambres libres, tu t'y installes. Il monte, il rentre dans une chambre, Mundi, il n'avait jamais vu ça. C'était trop beau, lui qui était habitué à la paille des granges. Il voit un lit tout blanc avec comme de la dentelle dans le drap. Il dit, mais je suis crotté, je vais pas me coucher là-dedans. Et tiens, je me mets sous le lit. J'y serais bien, là. Et il se glisse sous le lit. Ma foi, pourquoi pas. Il y est bien, il s'endort. 2 heures après, à l'auberge, arrive 2 jeunes mariés, en voyage de noces, qui demandent une chambre. L'aubergiste leur dit, il y a des chambres là-haut, trouvez-en une. Ils montent, ils rentrent dans une chambre impeccable, et vous les connaissez, les jeunes mariés, ils sont bien vite à l'ouvrage. Et voilà le marié, bon peut-être il a trop bu, peut-être il est poète, en tout cas, et il se sent des envies de déclamer, et il regarde sa belle et il lui dit « Oh ma belle, si tu savais tout ce que je vois dans tes yeux, je vois toutes les villes du monde illuminées, je vois toutes les roses du paradis, je vois toutes les étoiles du ciel !» Et à ce moment-là précis, il y a une tête qui sort du lit et qui dit « Et toi qui vois tant de choses, t'aurais pas vu mon âne par hasard ?»
Quand tu es petit, ne ton avion et pas de tes tours. Aro que tu grandis, tu n'es qu'un peu de melous. Tra la 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 la. Canteri pizzennetto, facci l'amor per sol, aro che sei grande tu la pote tu lenzol, tra la 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 la.
Vous l'aurez reconnu peut-être, c'était Lucien Besse de Lavrette. Enfin, voilà, maintenant il n'est plus ce monsieur, mais il a été enregistré par la Talvera au siècle dernier. Et bien, où est-ce qu'il était parti, cet âne de Bentreloun? Il était parti parce qu'il avait rencontré Ratou et Tampoun, 2 beaux mulets attelés. Mais ce qu'ils ont à nous dire, ces 2 mulets-là, ce sera pour la semaine prochaine où on parlera des tournées du moulinier. Pour l'heure, j'ai bien l'impression que l'émission est terminée. Je vous dis au revoir. et à la semaine prochaine, voire peut-être à l'année prochaine, on ne sait pas trop.